Bienvenue sur Mediapart. Voilà plusieurs mois maintenant, plusieurs années, que notre journal documente les violences policières et leur caractère systémique, notamment sous la plume de ma collègue Pascale Pascariello, avec qui je reçois Sébastien Rocher. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur de la police en démocratie et spécialiste des liens entre la police et les citoyens. Et on va réfléchir avec vous justement sur ce caractère systémique des violences policières en France, qui commence à être reconnue vraiment au-delà des cercles habituels de dénonciation de ces actes. Alors, une première question pour entrer dans le vif du sujet. Il y a une phrase qui m'a marqué dans une des contributions récentes que vous avez écrites pour la revue Esprit, dans laquelle vous écrivez que les violences policières sont liées à une crise systémique de la police française. Et cet usage de la violence qu'on a observé ces dernières années, dites-vous, est sans précédent dans l'histoire récente de notre pays. Le constat est fort, il est fait par d'autres, il est partagé. Quelle piste d'explication on donne de ce phénomène ?
Oui, d'abord, c'est vrai que le constat a été fait par les médecins qui ont publié un comptage des personnes qui ont perdu un œil dans l'ensemble des CHU de France, publié dans The Lancet, qui est un grand journal anglais. Ça recouvre les comptages qu'avait fait le journaliste David Dufresne.
Allo Place Beauvau, sur le journal.
Aussi. Voilà. Et donc, en fait, l'ensemble des comptages convergent. Donc, effectivement, 30 personnes mutilées en un an. Bon, on n'a jamais vu ça. Il faut regarder les choses en face, une personne décédée en de surcroît, donc tout ça dans le cadre du maintien de l'ordre. On n'est pas dans la bavure individuelle, on n'est pas dans le défaut de maîtrise, on n'est pas dans les caractéristiques techniques des armes, on n'est pas dans les règles d'emploi des armes, on est dans un problème systémique. À un moment donné, voilà, il faut appeler un chat un chat. Bon. Les blessures irréversibles, en plus des milliers de blessures, disons, simples, les blessures, au-delà même des blessures graves, les blessures irréversibles sont causées par quoi ? Par deux types de matériel. Donc les GLI F4, les grenades qui explosent, et les LBD. Donc le premier facteur associé avec les violences policières, c'est les armes. Donc voilà, c'est un premier élément.
L'explication, c'est les armes utilisées.
Et ces armes, c'est des armes dont, pour lesquelles donc, l'autorité politique, ce n'est pas les policiers qui décident de s'armer tout seuls, dans les démocraties, c'est l'autorité politique qui commande. Donc c'est l'autorité politique qui a décidé d'équiper des policiers avec ces grenades et avec ces LBD qui ont remplacé donc, les flashballs. Bon. Cette décision-là, personne ne pouvait, au moment où elle a été prise, en connaître complètement la portée. Personne ne savait que d'équiper le GIGN avec des armes de ce type-là, c'était un mouvement précurseur de l'équipement des BAC, des brigades d'action contre la délinquance, la criminalité ordinaire, des brigades en civil qui interviennent à chaud, bon, et qu'ensuite, on allait utiliser ces BAC en maintien de l'ordre. Personne n'avait vu toute la séquence. Mais le défenseur des droits avait alerté sur la potentialité, sur les risques qui étaient liés à l'usage des armes. Voilà. Et le gouvernement, l'IGPN et l'IGGN, donc les corps d'inspection de la police et de la gendarmerie, en 2014, ont écrit un rapport dans lequel ils reconnaissent la dangerosité de ces armes. Donc le premier facteur, voilà, c'est les armes.
Et derrière le politique, si on vous suit bien.
Et derrière, encore une fois, la police, son emploi est décidé par l'autorité politique, son équipement est décidé par l'autorité politique. C'est la règle dans les démocraties, les polices sont soumises à l'autorité politique. Bon. Deuxième chose, quand on regarde les blessures irréversibles et les tirs au LBD, on regarde qui a tiré. Ce qu'on voit, c'est que la gendarmerie a très peu tiré, la police a énormément tiré. Plus que jamais dans l'histoire de l'usage de ces armes, et que chez les policiers, les CRS ont beaucoup moins tiré que le reste des agents. Voilà, 15% pour les CRS, 85% pour le reste des policiers non formés au maintien de l'ordre. Donc là, on voit le deuxième facteur explicatif, la capacité d'une organisation à faire respecter des règles d'action. La gendarmerie le fait, la police ne le fait pas. N'arrive pas à le faire. Et on voit, le troisième élément d'explication, la professionnalisation. Les CRS, ils ont beau être policiers, ils tirent pas comme les agents de la BAC. Pourquoi ? Ils n'ont pas les mêmes règles d'usage, ils n'ont pas le même entraînement, ils n'ont pas le même ethos professionnel, pas la même culture professionnelle. Donc voilà, là, on a le cœur, disons, au niveau technique de l'explication. Et puis, il faut ajouter un dernier élément, qui est le rôle de l'autorité politique dans la décision d'engager, plus que jamais dans l'histoire récente, en masse, policiers et gendarmes pour faire le maintien de l'ordre. Donc des mobilisations de 80 000 agents à l'échelle de la France un week-end, bon, ça s'était jamais vu. Le fait de déployer les hélicoptères, les blindés de la gendarmerie, les motos, les chiens, les policiers à cheval, les BAC, les brigades d'intervention et les unités de maintien de l'ordre tout à la fois, c'est du jamais vu. Mmh. Et cette décision-là, voilà, c'est cette décision qui va engendrer les conséquences qu'on connaît.
Alors, sur ce caractère très éclaté, très composite en fait des forces de maintien de l'ordre, Pascal, pour le coup, a beaucoup travaillé dessus et tu avais une question à ce propos.
Oui, je l'avais vu notamment sur une des enquêtes sur une jeune fille à Marseille qui s'était faite fracasser le crâne par des brigades en marche, les compagnies de marche plutôt précisément, qui sont en fait des policiers récupérés dans des services très différents, notamment dans la BAC, et qui sont vêtus de noir, méconnaissables, sans aucun signe distinctif permettant de savoir que ce sont des policiers. Ils ne portent pas le numéro d'identification, le RIO, qui est pourtant obligatoire. Ils sont masqués. Certains ont aussi du matériel qui n'est absolument pas réglementaire, comme des gants en coquet. Et vous avez parlé justement par rapport à ces brigades qu'on voit et qui sont mises régulièrement, c'est-à-dire que ce n'est pas une fois un samedi de manifestation des Gilets jaunes, ça devient régulier. Vous avez parlé de sud-américanisation de la police française. Alors, est-ce que vous pourriez développer ou expliquer
Alors, normalement, dans les pays européens, la police agit suivant un certain nombre de lois et de règles. En fait, toute son action est codifiée. Donc, effectivement, ce sont des professionnels du maintien de l'ordre qui vont en maintien de l'ordre. Ces professionnels, ils respectent un certain nombre de choses, ils sont équipés d'une certaine manière, donc ils ont une tenue qui est appropriée pour le maintien de l'ordre, ils portent un numéro d'identification et ils ne portent que le matériel qui est autorisé. Mais quand vous regardez la police en Amérique latine, vous avez des groupes hétérogènes, des gens habillés avec toutes sortes de tenues diverses et variées. Certains portent des casques de moto, qui est leur propre casque de moto. D'autres portent un casque de la police. D'autres portent des écussons avec les signes des escadrons de la mort. Portent leur propre système de protection et ressemblent plus à une groupe de personnes, en train de castagner un autre groupe de personnes qu'à des policiers en maintien de l'ordre. Et c'est quelque chose que j'ai été surpris de voir en France. J'ai été surpris de voir, dans un pays qui a professionnalisé le maintien de l'ordre depuis 1920, de voir tout d'un coup qu'il y avait des policiers qui ressemblaient à des pays qui ont une tradition démocratique de 20 ans ou de 30 ans, dans des pays où les niveaux de violence homicide sont 10 fois, 20 fois et plus en Amérique centrale que ceux qu'on connaît en France. Donc tout d'un coup, on voyait la désorganisation de la police. Hein, et on voyait, encore une fois, cette crise systémique. C'est-à-dire que la hiérarchie ne sait plus, ne peut plus, ne veut plus, je ne sais pas, faire respecter les règles. Elle n'applique plus les règles. Or, la police est une organisation qui est normalement là pour faire respecter la loi. Et quand la police ne respecte plus ses propres règles, on est sur une ligne de fracture. Et il faut, je pense, essayer de rester du bon côté de la fracture.
Justement, parce que vous parlez de désorganisation de la police, mais là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, parce que quand c'est aussi répétitif, quand c'est aussi bien organisé, que derrière, il n'y a aucune sanction à l'égard des policiers qui ne respectent pas d'ailleurs les règles. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté tout simplement aussi politique de mettre en place un nouveau maintien de l'ordre avec des brigades comme ça, masquées, qui font peur, qu'on ne peut pas identifier et qui ne sont pas identifiables aussi? Parce que finalement, après, en termes d'enquête, on le voit dans les enquêtes judiciaires, c'est très difficile après de remonter, de retrouver l'identité de ces policiers qui commettent souvent des violences à l'égard des manifestants.
Alors, il y a beaucoup de, c'est très compliqué, il y a beaucoup de facteurs et personne a la solution, je dirais, complètement. Moi, ce que j'ai vu et ce que tout le monde a pu voir, c'est une déclaration du président de la République, du ministre de l'Intérieur, en disant, d'ailleurs comme l'avait fait Erdogan en Turquie en 2013 pendant la crise de Gezi, en disant, voilà, il y a une insurrection, c'est des factieux qui veulent renverser le pouvoir. Donc c'est la même rhétorique et c'est à ce motif-là qu'aujourd'hui, des personnes sont poursuivies en Turquie devant des tribunaux. Bon. Donc cette dramatisation de la situation, il y a des gens qui ont effectivement submergé la place de l'Arc de Triomphe. C'est vrai qu'il y a une préfecture qui a été brûlée, etc. Il y a des gens énervés qui ont détruit un certain nombre de lieux ou pris d'assaut, entre guillemets, une place vide qui est la place de l'étoile. Voilà. Donc ça ce sont des comportements en fait, de gens en colère, désorganisés. Ce n'est pas un comportement de conquête du pouvoir. Mais le pouvoir a dit ça, c'est un comportement de conquête du pouvoir. Et là, il a débloqué des moyens sans précédent. Moi, je pense que c'est plus une désorganisation. Et ensuite, ils ont inciter les agents à frapper fort, au sens symbolique et physique. Ils ont incité à y aller pour décourager les participants. Et ensuite, lorsque le directeur général de la police nationale, en janvier 2019, rappelle les règles, ce qui est intéressant, c'est de voir que son rappel n'a pas d'effet. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de tirs de LBD par jour avant et après le rappel à l'ordre, si j'ose dire, du directeur général, on voit qu'en fait, le volume de tir ne change pas. Voilà. Donc on a plutôt...
C'est grave, je m'arrête un peu là-dessus, parce que c'est très frappant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réaction disproportionnée au plus haut niveau politique. Et ensuite, il y a comme une sorte d'effet cliqué où on ne tient plus les troupes comme on est censé les tenir.
Exactement. C'est-à-dire que les policiers, ils sont, à la fois, ils ont des incitations à considérer ceux qui sont en face d'eux, non plus comme des citoyens en colère, mais comme des factieux, une foule insurrectionnelle, globalement. Et de l'autre côté, les policiers reçoivent les projectiles sur la tête. Donc la combinaison des deux éléments, avec la présence à l'intérieur des unités d'intervention et des BAC, qui sont habitués à faire quoi ? Ben, à neutraliser des gens dangereux. Bon, ce mélange explosif ben, détonne. Voilà, c'est ce qui se passe. Et là, normalement, la hiérarchie aurait dû être en position de dire ben « Non, les gants en coquet, ça n'existe pas. Les équipements, voilà, c'est ça qui est standardisé. L'usage du LBD, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le port du numéro Rio, c'est une circulaire officielle du ministre de l'Intérieur. Tout ça aurait dû être respecté. Et tout ça n'a pas été respecté. Donc, c'est là que je dis il y a une crise systémique de la capacité à commander du ministre de l'Intérieur. Bon. »
Ou peut-être une volonté politique de réprimer aussi ainsi un mouvement de contestation sociale ou politique.
Ah ben oui, il y a une volonté de s'opposer au mouvement des Gilets jaunes qui avait débordé, on va dire symboliquement, le pouvoir. Oui, le pouvoir l'a dit lui-même. C'est pas, moi, j'ai pas besoin même de faire l'interprétation. Ils l'ont dit. Ils ont dit on a été débordé. Maintenant, on va être ferme. Donc voilà. Mais c'est à mon avis, si vous voulez, on ne réprime pas des mouvements de cette nature-là quand ils ont cette taille et cette durée. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut effectivement les exciter un peu plus, mais le mouvement, il a eu des traces et il aura des traces extrêmement durables. On n'a jamais connu une mobilisation sur les questions de violence policière comme on la connaît aujourd'hui. Jamais. Jamais on a eu tant d'articles de presse. Jamais les gens ont prononcé le mot LBD aussi souvent. Jamais l'IGPN n'a été l'objet d'autant d'articles de presse. Donc en fait, ça a ouvert une boîte noire parce que la crise systémique, c'est la crise du commandement, mais c'est aussi la crise de la régulation. Comment ça se fait que le système de régulation des comportements ne marche pas ?
Voilà. Alors parce que là, ce qu'on décrit effectivement, c'est les mois écoulés. Ce livre que je citais tout à l'heure, il date d'il y a 4 ans. Il est publié en 2016, de la police en démocratie. Et on voulait revenir là-dessus parce que ça dresse quand même le paysage qu'il y avait avant les Gilets jaunes. Dans cet ouvrage, où on retrouve d'ailleurs toute votre méthode qui se fondait beaucoup sur des enquêtes de terrain, des données empiriques en France et ailleurs, donc il y a beaucoup ce jeu comparatif avec les autres pays, on voit que les performances françaises, en termes de confiance notamment de la population, est assez médiocre. Plus précisément, comment est-ce qu'on situe la France par rapport à ses autres voisins européens, enfin disons dans l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, et même question que tout à l'heure, en fait, comment on explique le retard qu'elle a par rapport aux pays de richesse comparable ?
Ces enquêtes, elles permettent de dire, ok, la police, si c'est un service public, quel doit être son objectif ? Ben, c'est de servir le public. Donc à ce moment-là, à qui on demande si le public est bien servi ? Ben, on demande au public. Et c'est ça que fait l'enquête. Elle interroge dans tous les pays de l'Union européenne les citoyens et elle leur dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez de votre public et de votre police, pardon. Est-ce qu'elle est impartiale? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle traite les riches comme les pauvres, les blancs comme les noirs? Est-ce qu'elle tient compte de vos priorités? C'est ça qui est fait. Et à ce moment-là, on a un classement des 27 pays de l'UE. Et à la fois dans ces enquêtes et dans d'autres enquêtes, donc la France va arriver en général dans le haut du tiers inférieur. En disant, si on découpe les 27 pays en 3, 3 fois 9, 27, hein, on est en général autour de la voilà, 9e, 8e place, etc. Souvent proche de la Bulgarie, de la Grèce, etc.
Bon, on est, pas déshonorant, mais pas glorieux quand même.
Bah, si, c'est quand même déshonorant. Je veux dire, on est la sixième
vu
économie du monde.
De la tradition démocratique et le niveau de richesse.
Voilà, on est derrière l'Allemagne, bon, avec l'Angleterre, on est toujours proche, mais disons deuxième ou troisième économie de l'UE. Un système démocratique installé maintenant depuis la libération sans interruption, une histoire révolutionnaire, etc. Bon, dans tout le monde, voilà. Donc normalement, on n'est pas classé là. Là, c'est le classement des pays qui n'ont pas les ressources, pas le système d'éducation, pas le système de contrôle au niveau du système français. Donc on est objectivement mal classé et toujours plus mal classé que l'Allemagne.
Une petite parenthèse rapide, mais c'est un passage du livre qui m'a intéressé. À un moment, vous posez la question à un policier français. Vous lui dites, est-ce que vous êtes bien équipé pour aller au-devant de la population ? Il dit, oui, c'est bon, j'ai tout le matériel qu'il faut. Et vous, dans votre tête, la question était différente. Est-ce que vous êtes équipé en termes de discours, de capacité à rentrer en dialogue,
quoi. Voilà. C'est un travail sur les relations police-population. Et donc, on demande aux policiers les relations avec la population. Comment vous voyez ça ? Et le policier répond, je suis bien protégé physiquement. Alors qu'effectivement, l'enjeu, ce qui protège le policier allemand, ce qui protège le policier anglais, c'est l'approche, c'est la recherche du consentement, c'est la consultation, c'est la connaissance de la société, de la diversité de la société, c'est ça qui lui permet de s'ajuster, de s'adapter, etc. Et l'idée de ne pas faire usage de la force. En France, vous avez un certain nombre de responsables syndicaux qui disent « le problème, c'est que la police ne fait plus peur ». Le modèle français, c'est la police qui fait peur. Comment vous avez confiance dans quelqu'un qui vous fait peur ? Donc il y a une erreur de diagnostic, là où en Allemagne, le slogan c'est « la police, ton ami » et « celui et celle qui va t'aider ». En France, la police, d'après les responsables qui ont prononcé ces mots, c'est la bonne police, c'est la police qui fait peur. Donc là, on a vraiment un problème de modèle. C'est un problème systémique. C'est pas les agents qu'il faut blâmer un par un. Les agents, ils travaillent un peu comme ils peuvent, formés comme ils sont, deux fois moins qu'en Allemagne, trois fois moins qu'au Danemark.
Vous avez déjà un peu répondu, mais peut-être vous pourriez développer. C'était justement ça, ce qu'on a oublié en France, c'est-à-dire que le rôle de la police, c'est ce que vous expliquez en introduction du livre. Le rôle d'une police en démocratie, c'est pas de faire régner l'ordre, mais c'est de servir les citoyens et de faire preuve d'impartialité. Donc, est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer cette idée qui, en France, du coup, nous est très étrangère ?
Oui, si on dit qu'est-ce que fait l'État si l'État a une fonction de protection ? Eh bien, la police, elle a cette fonction de protection. Donc, elle doit apporter à tous, de manière égale, le même service. Donc, de façon égale et impartiale à tous. Voilà. Et donc, elle doit rechercher, savoir comment elle peut rendre ce service. Elle n'est pas une force qui s'impose. Elle est une force qui est capable de dialogue, qui est capable d'analyse. Bon, alors, c'est ça le défi. Comment on transforme une force en un service ? Et la France est toujours au milieu du guet. Alors, elle fait mieux que d'autres pays. C'est certain que le Brésil, la Russie et beaucoup d'autres pays. Mais dans sa catégorie des pays riches, etc., elle est comme bloquée dans les années 80. On est bloqué comme 40 ans en arrière. Et on a eu la tentative de la réforme de la police de proximité, qui finalement n'a pas été jusqu'à son terme. Donc on est bloqué, en fait, dans les référentiels des années 80. Voilà. On n'arrive pas à franchir ce seuil et à dire, oui, la vraie fonction de la police, c'est de servir et de créer de la confiance.
Alors, pour justement dépasser ces bouclages-là, quels sont les chantiers qui vous semblent prioritaires? Est-ce que c'est au niveau des organismes de contrôle? Vous avez évoqué plusieurs fois l'IGPN au début de l'entretien. Est-ce que c'est au niveau, en priorité, de cette tactique de maintien de l'ordre dont on a beaucoup parlé? Est-ce qu'il faut lancer tous les chantiers en même temps? Qu'est-ce que le chercheur préconise à l'action publique?
Moi, j'ai travaillé dans plusieurs pays étrangers pour assister, donc pour l'Union européenne, des pays à programmer en fait leurs réformes. Donc moi, ce que je crois, c'est que ça se programme. Donc il faut un plan pluriannuel. Donc il n'y a pas de solution. Personne n'a la solution clé en main pour que les choses aillent mieux demain. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites même dans le cadre de la campagne des municipales. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réforme une police. Donc c'est vraiment un plan de long terme. Voilà, il faut définir des étapes.
Bon, et la première étape, ce sera...
C'est la vision politique. C'est la vision politique. C'est-à-dire que vous pouvez réformer dans une direction si vous avez défini la direction. Mais pour l'instant, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de carte. Donc on ne sait pas où on veut aller, on n'a pas de boussole et on n'a pas de carte. Sans boussole et sans carte, vous allez nulle part. Donc c'est la situation française qui explique pourquoi notre pays riche, hein, où les gens sont bien formés, ne progresse pas en matière de police. C'est ça qui l'explique. Donc la première chose, c'est de définir cette boussole. Si on veut aller dans la direction de la police comme service, à ce moment-là, on fait un certain nombre de transformations. On a besoin, par exemple, de moins de policiers. Il faut diminuer le nombre de policiers en France. Pourquoi ? Pour pouvoir les former plus longtemps. Parce que la formation, ça coûte. Il vaut mieux un policier qui travaille bien que deux policiers qui travaillent mal. Ça se comprend assez bien. Donc ça, c'est la première chose. Il faut pouvoir aussi que les policiers aient des conditions de travail qui soient meilleures. Donc on ne peut pas avoir plus de policiers formés plus longtemps avec des meilleures conditions de travail. Personne ne va payer pour ça. On a déjà plus de policiers que les autres pays de l'Union européenne en moyenne. Donc il faut faire des choix stratégiques. Qu'est-ce qu'on veut ? Voilà, moi, je pense qu'il faut moins de policiers, par mieux formés. Et ensuite, il faut des outils de contrôle modernisés et démocratisés. Un contrôle externe doit être renforcé. On ne peut pas avoir le chef de la police, qui est aussi le chef de l'IGPN, et qui est celui qui va donner leur prochain poste aux agents enquêteurs. Les enquêteurs qui font une enquête, à la fin de l'enquête, ils savent qu'ils vont devoir être mutés quelque part. Donc ils savent très bien qui est leur chef. Donc il faut moderniser cet outil de contrôle également.
Parmi les blocages, est-ce que les syndicats, par exemple, en France, ont une place évidemment trop importante? On l'a vu encore au Salon de l'agriculture, lorsque Emmanuel Macron a été interpellé par une gilet jaune qui a demandé à ce que les forces de l'ordre soient plus calmes. La réponse qu'il lui a apportée était celle qu'on entend tout le temps chez les syndicats, qui est de dire « mais la police est épuisée ». Donc on se rend compte aussi du poids peut-être trop important en France, comparé à d'autres pays européens, qu'ont les syndicats ?
Alors, un mot sur l'épuisement. D'abord, l'épuisement n'explique pas l'usage des LBD et des grenades de désencerclement. C'est-à-dire que dans les études qu'on possède sur l'usage de la force, donc des armes par la police dans les pays étrangers, il n'y a pas d'études en France, la fatigue n'est pas un facteur. Et on le comprend bien, ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on tire sur un manifestant à 2 mètres de soi. La fatigue peut déclencher des crises, effectivement, de tensions physiques, etc., de personnes qui sont l'une face à l'autre, mais pas l'usage des armes. Bon. Les syndicats, d'abord, les policiers ont le droit d'être syndiqués. Donc les syndicats sont un élément normal et même légal dans l'Union européenne, hein, du fonctionnement des polices. Donc les professionnels ont le droit d'être représentés. Bon, la particularité du système français, c'est que les syndicats co-gèrent tout le système. C'est-à-dire qu'ils se plaignent, par exemple, des suicides dans la police, mais en fait, ils ont co-géré la police jusqu'à présent. Donc ils ont cette double assise, j'ai envie de dire, où d'un autre, ils se plaignent des choses qu'ils ont eux-mêmes mises en place. Bon, ils se plaignent de la performance, par exemple, du système de performance. C'est eux qui l'ont mis en place avec Nicolas Sarkozy. Et ils disaient à l'époque, les syndicats de commissaires, nous n'avons jamais été aussi proches des idées des dirigeants politiques. Donc voilà, donc il y a un système en France de co-gestion. Donc les carrières sont gérées avec les syndicats, les sanctions sont gérées avec les syndicats. C'est là qu'il y a un problème. Les stratégies de maintien de l'ordre sont également gérées avec les syndicats. C'est là qu'il y a un problème. Les syndicats sont complètement légitimes, mais ils sont légitimes à leur place. Et aujourd'hui, les stratégies de police devraient être des stratégies décidées par l'autorité politique, en concertation avec les élus locaux, par exemple, pour la ville de Paris, ça pourrait être beaucoup plus le cas, et aussi faire place à l'analyse, par exemple, des médecins qui voient les effets des armes. Donc la consultation ne devrait pas être un face-à-face syndicat-autorité politique, ça devrait être une consultation beaucoup plus large. Trouver le bon système de maintien de l'ordre, c'est pas juste, encore une fois, des policiers face aux ministres qui vont la trouver. Ça concerne, ça nous concerne tous en tant que citoyens, en tant que chercheurs, en tant que société civile, etc.
Vous avez évoqué les élus locaux. J'avais une petite question, puisqu'on enregistre cet entretien à quelques semaines à peine des élections municipales. Les polices municipales ont pris beaucoup d'importance depuis trois dizaines d'années. Ce qui a pris beaucoup d'importance aussi, ce sont les polices municipales armées. Et dans plusieurs villes, il y a des propositions des candidats à armer la police municipale. J'étais curieux de voir votre avis sur la pertinence de ce choix-là.
Mais, si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est que le choix est pertinent par rapport à une finalité. Donc si le but, c'est de faire des petites polices nationales qu'on appelle municipales, c'est logique. L'idée, c'est d'avoir les mêmes pouvoirs que la police nationale, les mêmes équipements, les mêmes armes et de travailler de la même manière. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de bénéfice d'avoir une police municipale. Ça n'apporte plus rien. Donc il y a vraiment ce choix. Si on veut faire autre chose, si on veut intégrer l'action de la police avec l'action des autres services municipaux. Donc là, c'est une autre approche, une approche globale des problèmes. C'est-à-dire qu'on dit, il y a un problème dans un quartier, c'est souvent un problème de pauvreté, de santé publique et de police, mettons. C'est un problème global. Donc là, le maire peut développer un outil pour analyser ces problèmes et réagir de façon partenariale. Si on dit le travail de la police, c'est juste de trouver les auteurs une fois qu'ils ont commis des délits et de les remettre à la justice, c'est un modèle dont on connaît les limites. On connaît très bien les taux de récidive, par exemple, des personnes condamnées. Donc, le modèle doit être orienté pour être efficace. La vraie sécurité, c'est la prévention. Donc, il doit être orienté vers la prévention et donc faire participer la police à une politique de prévention. Et là, il y aurait une plus-value des polices municipales. Voilà. Mais tous les candidats ne vont pas avoir cette analyse.
Et dans ce rôle de prévention, du coup, l'armement vous paraît contre-indiqué ?
Ben, l'armement ne m'apparaît pas apporter beaucoup. Parce qu'en fait, l'armement, il vous coûte de l'argent. Il faut former les gens. Ça vous coûte du temps de fonctionnaire. Donc, toute cette énergie que vous allez mettre autour de l'armement, vous allez l'enlever d'ailleurs. Par exemple, cet équipement que vous allez pouvoir fournir, cette formation que vous allez pouvoir donner aux agents, par exemple, en matière de résolution des problèmes, de capacité à négocier un problème si un problème de drogue, c'est un problème de santé, encore une fois, c'est aussi un problème judiciaire. Donc, il faut savoir travailler avec les médecins. Donc, ça s'apprend. Tous ces métiers, ça s'apprend. Bon, à partir de là, si vous choisissez de mettre vos ressources vers les armes, ben, vous les mettez pas ailleurs. Donc, ça se discute. Pour les policiers, quand vous regardez les exemples internationaux, vous avez les États-Unis où les policiers tuent beaucoup de gens, surtout les minorités, et dans lesquels les policiers sont eux-mêmes beaucoup tués. Donc les policiers qui font beaucoup usage de leurs armes, en face d'eux, il y a beaucoup d'usage des armes aussi. Vous allez en Angleterre, les policiers ne sont pas armés, ils sont moins attaqués qu'en France. Donc on voit bien que c'est l'attitude de la police par rapport à la population qui crée cette relation. Et donc, les policiers municipaux, les maires, ils ont ce choix. Est-ce qu'on construit une police de confrontation ou bien est-ce qu'on construit une police de tranquillité publique ? Voilà. Donc, ils ont ce choix.
Alors, pour terminer notre entretien, on avait quelques questions peut-être un peu plus personnelles sur votre parcours et comment vous en venez aujourd'hui à défendre ces idées-là.
Oui, vous avez enseigné près de 26 ans à l'École nationale supérieure de la police qui forme les cadres et les commissaires. C'était un enseignement qui était sur l'analyse de l'insécurité. Et en août dernier, vous recevez un courrier de cette école qui met fin à votre enseignement. C'est quoi ? C'est une décision politique parce que vous avez émis trop de critiques à l'égard des policiers pendant le mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce que c'est la police qui supporte pas qu'on la critique ou qu'on analyse ces violences ?
Alors, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la boîte noire, mais disons j'ai eu deux fois dans ma carrière, j'ai été mis en porte-à-faux dans ma fonction d'enseignant à l'école des commissaires de police. En 2005, pendant les émeutes, parce que j'avais estimé aussi qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Les émeutes, il y a des policiers qui poursuivent des gamins qui meurent. Bon, c'est quand même un problème. Donc j'ai dit, là, il y a à nouveau et déjà cette question des relations police-population. Quand on connaît les gamins, on n'a pas besoin de leur courir après. Donc si on a une police qui intervient, qui ne connaît pas la situation, elle va commettre des erreurs. Bon. Donc ça m'a valu une première tentative de la part des organisations syndicales de me faire démissionner de l'école. Bon, moi, j'ai gardé les courriers. Et là, à nouveau, pendant la crise des Gilets jaunes, devant la multiplication des mutilations, j'ai aussi pensé qu'une police qui ne mutile pas est meilleure qu'une police qui mutile. Donc je l'ai dit dans la presse. Bon. Et à la suite de ces prises de position, on m'a dit qu'il y avait une réforme de l'enseignement. Après, on a interrogé un journaliste de Libération, Ismaël Alissat, a interrogé. Et en fait, cette réforme concernait que le module dans lequel j'enseignais et dans le module ne concernait que moi. Donc c'était une réforme de l'enseignement, on va dire, sur mesure. Voilà. Donc oui, en situation de crise, sous pression, une organisation, elle a deux solutions. Voilà. Soit je dis j'ouvre et je réfléchis, je profite de la crise pour faire mieux, soit je me referme. Bon, voilà, c'est plutôt cette solution qui a été mise en œuvre.
Alors, ce qui nous interpelle, c'est qu'à la fois, il y a cette forme de sanction qui ne dit pas son nom de la part du pouvoir ou de l'administration. Et d'un autre côté, parmi les sociologues qui travaillent sur les questions de sécurité et de police, pour dire les choses un peu plaisamment, vous n'êtes pas considéré comme le plus gauchiste. Quoi. Mmh. Et notamment parce que au moment des fameuses polémiques qui datent un peu sur le sentiment d'insécurité, on parlait de ça à la fin de la gauche plurielle de Jospin, bah, vous documentiez le fait que ce sentiment correspondait à une réalité à des faits. À l'époque des émeutes de 2005 que vous avez évoquées, vous aviez plutôt dénié le caractère politique de ces émeutes que certains décrivaient. Vous avez aussi travaillé sur quelque chose de très sensible qui est les effets des origines ethniques, culturelles dans le rapport à la police. Ça, c'est trop de boîtes à ouvrir, en tout cas. Mais est-ce que vous considérez que vous avez tracé le même sillon intellectuel depuis ces années-là, ou est-ce que il y a une évolution dans votre approche des questions de sécurité et de police?
Bon, je suis un empiriste à la base, donc j'ai essayé de théoriser un certain nombre de choses, mais je reste un empiriste, donc ce que je fais est appuyé sur des enquêtes, bon, vous l'avez dit au début, donc des systèmes d'observation. Ouais. Quand, par les systèmes d'observation, on voit qu'en France, les minorités ethniques sont surdélinquantes, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui interroge d'ailleurs de savoir pourquoi en France et pas ailleurs, bon, je le décris, je dis voilà, c'est ça, voilà ce qu'on voit. Et lorsqu'on a une police française qui est classée, encore une fois, dans le tiers inférieur des pays de l'UE, je vais le décrire aussi. Et après, je cherche à comprendre. Donc, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas une pensée, je dirais, où j'aurais déroulé un programme scientifique ou politico-scientifique.
Il n'y a pas d'agenda idéologique.
Voilà, j'ai pas cette chance ou cette force. Donc, j'ai été guidé par, en fait, l'analyse des événements, de l'actualité, donc l'émergence du sentiment d'insécurité. C'est vrai que personne ne voulait considérer, mais qui a quand même eu des effets politiques considérables. Hein. Voilà, les hommes politiques ont décidé de répondre à ce qu'ils appelaient le sentiment d'insécurité. Dans les années 80, ça a été une grande transformation. La gauche a dû réviser complètement sa carte idéologique, etc. Donc, voilà, j'ai analysé ça, j'ai analysé les émeutes, etc. Donc, c'est ça. Bon, après, c'est vrai que j'ai travaillé, donc, comme je disais, en Turquie et dans d'autres pays de la Méditerranée. Et j'ai mieux vu et mieux compris la valeur de la protection des droits. Voilà. C'est difficile en France de connaître la valeur des droits de l'homme. C'est difficile parce qu'ils ne sont pas parfaitement garantis, bien sûr, mais ils sont assez bien garantis. Donc on voit même mal ce que ça veut dire. Mais par contre, quand on va dans les régimes autoritaires, la Turquie, juste dans la Tunisie, juste après Ben Ali. Bon, je visite le ministère de l'Intérieur, et là, avec des collègues tunisiens, ils me disent, voilà, cette descente à droite, je l'ai prise une fois, c'est quand je suis descendu à la salle de torture, sous le commissariat central. Ou quand, en Turquie, on était dans un hôtel qui est devenu un hôtel de luxe, pour organiser une conférence internationale, et ça, c'était l'ancienne prison des militaires en Turquie, et qui me montre la petite fenêtre et qui me dit « là, c'était ma cellule ». Donc, disons, ça m'a transformé, forcément. Et je me suis dit « oui, ce qu'on a, on ne doit pas le perdre ». Donc, ça a informé ma lecture, ma compréhension de ce à quoi servent les polices. Pourquoi ? Parce que dans ces polices-là, dans ces pays-là, à ces moments-là, à quoi servait la police ? En Égypte, bon, l'idée, c'était, avant la transition et l'arrivée de Morsi, c'était d'éliminer physiquement l'opposition. Donc la police, sa fonction était une fonction d'élimination physique de l'opposition. Moi, je me dis, ce n'est pas une très bonne approche. Voilà. Et ensuite, la fonction avait, ou dans d'autres pays, la police a eu surtout une fonction de maintenir l'ordre tel, pas l'ordre légal, l'ordre décidé par l'autorité politique. Donc moi, je dis, si la police maintient l'ordre, c'est un ordre légal. lorsque les personnes sont mutilées, est-ce que c'est ça, l'ordre légal ? Probablement pas. Donc voilà, c'est ce passage dans des pays qui n'ont pas les moyens de faire la police bien. En Afrique de l'Ouest aussi, voilà, ça m'a renforcé dans mes convictions qu'il fallait que la police protège les droits comme c'est dit dans la Constitution en réalité.
Très bien, merci beaucoup Sébastien Rocher, merci Pascal également. Je rappelle le titre de votre livre, De la police en démocratie, c'est aux éditions Grasset. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis pour retrouver tous les autres entretiens vidéo de Mediapart, rendez-vous sur notre site et sur notre chaîne YouTube.